Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on démarre les interviews des team managers. Voilà, ça c'est vrai qu'on parle des athlètes, on parle des marques et on oublie la personne qui est un petit peu entre les deux, les team managers. Alors aujourd'hui, je suis avec Nicolas, qui est à la tête du team Merrell, qui porte depuis des années et qui commence à être assez punchy là. Cette année, on les a beaucoup vus. Nicolas, salut!
Salut Hugo, merci pour cette interview du coup.
Eh ben, alors, toi, Nicolas, depuis combien de temps es-tu team manager de Merrell? Même si ça a porté plusieurs noms, c'était toujours un peu la même structure. Ça fait
Ouais,
combien de
alors
temps?
ça fait 6 ans que j'ai vraiment créé le team et ça fait plutôt 4 ans qu'on est associé à Merrell. Et voilà, ça devient vraiment Team Merrell que depuis les 2 dernières années, mais voilà, c'est la même structure depuis 6 ans.
6 ans, ça nous ramène à 2017. Avant, tu avais le nom de Team Provence Endurance.
C'est
T'étais
ça.
sponsorisé plus par la région?
Même pas vraiment, c'est plus que c'était une dynamique régionale en formant des jeunes localement, voilà, en faisant une dynamique. Sur toute la région, en recrutant des têtes de section, etc., des déplacements groupés, des choses comme ça. C'était plus cette dynamique-là au départ.
Ok, ouais. Dans les 6 années là qui se sont écoulées, donc je disais, tu es parti d'un team un peu modeste, et puis cette année, on vous a vu sur pas mal de podiums, dont des podiums un petit peu relevés sur les courses by UTMB. Là, j'ai en tête Istria. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, selon toi, quelles ont été les évolutions depuis que tu as créé Steam, donc c'était en 2017.
Alors, bon, il y a évidemment une évolution de budget qui permet certaines choses, certains déplacements, etc. Après, c'est plus l'accompagnement sur le long terme qui permet cette évolution de résultats au fil des saisons. Parce qu'on essaye de faire confiance aux coureurs pas sur 1 an, et si ça ne marche pas, on les jette, quoi. C'est des projets sur 2, 3 ans, 4 ans. Et ça laisse le temps, voilà, aux coureurs d'évoluer, de trouver leur marque aussi dans l'équipe, de trouver une certaine confiance dans le staff, avec les autres coureurs, et donc d'aller chercher petit à petit des résultats. Et bah, ça marche plutôt pas mal. Bah, tu parlais d'Istria, donc c'est avec Alex Béraud, c'était ça déjà sa troisième saison dans le team. Il a fait quatrième à Istria, mais c'est pareil pour d'autres qui ont marché sur des Skyrunning, sur les Golden, où c'était tous leur deuxième, troisième saison. Voilà, on leur laisse le temps de prouver ce qu'ils valent et de chercher d'avancer, d'atteindre leur plus haut niveau, d'atteindre pleinement leur potentiel, de l'exploiter.
Par exemple, Louison Coiffet, il était déjà avec vous pour la saison 2022?
Oui, et puis depuis la saison 2021 même.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait en 2021-2022?
Bah 2021, il a fait cinquième aux France de Cavé.
Ouais,
Donc,
ok, ouais.
c'était un petit début prometteur, on va dire, mais on n'a pas voulu brûler les étapes parce qu'il était encore espoir.
Ouais.
Et l'année dernière, il a gagné une manche de Skyrunning World à Tromsø. Et donc là, on a compris qu'il y avait vraiment. C'est surtout le chrono, en fait. Ça a très peu parlé ici parce que c'était au fin fond de la Norvège et que.
Ouais, puis c'était en août, non?
Voilà, c'était en août aussi, il
Ouais.
y a plein d'autres événements. Mais quand on a vu le chrono, qu'on l'a comparé aux meilleurs Français les autres années sur le même parcours, on avait tous très bien compris dans l'équipe que là, il s'était passé quelque chose, quoi. Et c'est que cette année que ça a explosé aux yeux de tout le monde. Mais depuis août dernier, on savait qu'il avait pris une autre dimension, quoi.
Ah, ok. Et on a vu aussi, donc tu nous as parlé d'Alexandre Béraud, c'est sa troisième année dans le team. Alors Alex, il est beaucoup plus âgé et je pense que bon, ouais, ça fait 3 ans qu'il est régulier, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Nico? Il avait les mêmes résultats, t'as pas vu spécialement d'évolution?
Si on veut faire une comparatif chiffré, c'est vrai que cette année, il a quand même grandement augmenté sa cote ITRA et sa cote UTMB.
Ah ouais?
Donc, malgré tout, oh, il a gagné presque 20 points quand même cette année.
Ah ouais, c'est pas mal parce qu'il est au-dessus de 800.
Oui,
Et puis il
oui.
fait de l'ultra, c'est pas facile.
C'est ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chance du coup pour côté dans l'année, il n'y a pas beaucoup d'essais, même s'il en fait déjà pas mal. Mais ouais, il a vraiment franchi encore un palier cette année. Pareil, c'est une question de connaissance, de confiance, de choix des courses aussi. On en discute pas mal du calendrier. Entre Istria et la Diag, c'est vrai qu'il a fait des courses un peu moins médiatiques cette année, aussi un peu plus locales. On reviendra sur d'autres plus grosses courses l'année prochaine. Mais oui, il est assez régulier, c'est vrai, mais il y a toujours une progression.
Ah, ok. Et Simon Guignard, il était avec vous déjà les autres années?
Alors, lui, c'est la première vraie saison complète. Ce qui est rigolo, c'est que lui, il a débarqué, on l'a trouvé à la course que j'organise, là, le Tour du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Ah, qu'est-ce qu'il faisait là?
Il cherchait une course ITRA juste pour marquer des points, pour s'inscrire à la Skyrune, si tu veux tout savoir, pour la petite
Ah ouais,
histoire.
ok. Et il venait de loin?
Il venait de Normandie.
Ah oui,
Donc,
quand
il
même.
venait de très loin, quoi. Il a traversé la France pour faire notre petite course, là où il y a 100 coureurs, quoi. Et
Ouais,
là...
petite course à étapes, sympa.
Ouais, merci. J'espère te voir un jour d'ailleurs.
Bah oui, mais il y a le niveau les revoirs un peu en même temps, c'est
Je
chaud.
sais, je sais. Je décalerai la date un jour.
Ah
Et du coup, il nous a impressionnés parce qu'il a battu, il a gagné le prologue et après il a battu Julien Rancon sur la verticale.
oui.
Et du coup, on s'est dit, c'est qui ce gamin, quoi? Donc voilà, et après lui, le plus important, c'était le cadrer parce qu'il avait un potentiel énorme, mais voilà, de certaines mauvaises habitudes, un entraînement un peu à l'arrache, etc. Donc cette année, on a essayé de bien le cadrer là-dessus et ça a plutôt pas mal marché.
Ah, ok, ouais. Et quand tu as créé le team au début, donc pour résumer, t'es passé de coureurs un petit peu régionaux à aujourd'hui des coureurs qui viennent, bah, peut-être pas de toute la France, mais c'est un peu plus large, quoi.
Oui, clairement, oui. Bah, on avait même cette année, on avait même un Belge qui vit en Suisse, là, Rémi Gardier. Et du coup, oui,
Ah
on
oui,
avait
c'est
pas
vrai, qu'est-ce qu'il a fait cette année, lui?
Il a été blessé longtemps, il a fait deuxième au 70 du Ventoux. Et il a été après
Oui.
grand blessé. Il va finir sur la Saint-Élion, là.
Ah ouais, quelle horreur.
Mais voilà. Mais du coup, ouais, une année compliquée pour lui. Mais
Ok,
oui, effectivement,
ouais.
on a élargi au niveau géographique largement.
Et cette évolution, elle a été possible grâce à une augmentation du budget, donc tu disais en résumé.
Oui, forcément en
Est-ce que
partie.
ça a été aussi une augmentation de ton investissement personnel au sein du team par rapport au début?
Ouais, aussi, même si j'ai toujours été très investi parce que c'est mon projet quand même, mais c'est vrai qu'en voyant les résultats augmenter, en voyant aussi les possibilités qui s'ouvraient devant, ben forcément j'avais plus envie de. Enfin, j'y travaillais de plus en plus assidûment et oui, bien sûr aussi.
Ok, ouais.
Et il y a eu aussi l'aide, voilà, d'autres gens qui sont venus pour aider dans le staff, d'autres entraîneurs, d'autres personnels soignants, c'est-à-dire ostéo, kiné, etc. Donc pour structurer le projet, quoi.
Ah, ça c'est une question un petit peu après. On va passer à la question qui tue. Qu'est-ce qu'un team selon toi, Nicolas? Puisque je ne sais pas s'ils le feront cette année, car Fred Bousseau n'est plus salarié à Trek Endurance Mag, mais chaque année, un peu après le nouvel an, on avait tous les teams qui sortaient et on découvrait des teams un peu bizarres, le team Intersport Pontarlier, enfin, ou je ne sais pas quoi. À côté, enfin, il y avait le team Salomon, bien sûr, mais voilà, des fois, on voyait des trucs un peu bizarres, on se demandait ce que c'était. Du coup, selon toi, qu'est-ce qu'un team?
Alors, cette année, c'est vrai qu'on avait fait plusieurs réunions sur ça, bah, donc, notamment avec Fred et avec d'autres team managers pour
Oui, c'est vrai.
essayer de mettre une définition là-dessus, essayer de mettre des points essentiels pour être considéré comme un team. Bon, pour la définition de team élite, je crois qu'on avait mis une cote ITRA moyenne minimum. Après, il y avait un nombre de coureurs minimum aussi, sans reprendre exactement le cahier des charges qu'on avait dit. En gros, un team, enfin oui, il faut qu'il y ait un minimum d'athlètes, il faut qu'il y ait un encadrement pour pas que les athlètes soient livrés à eux-mêmes, sinon c'est des ambassadeurs, quoi. Il faut qu'il y ait cet esprit d'équipe, quoi, que le mot porte bien sa définition, quoi.
Ouais, il faut.
Ouais.
C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, vous alliez sur des courses ensemble.
Voilà, c'est ça. Qu'il y ait des stages, un encadrement sur les courses. Des regroupements sur des courses, justement, où il y a tout le team ou une partie, voilà, que l'athlète soit pas livré à lui-même toute l'année, quoi. C'est pour moi, voilà, c'est pour moi une différence essentielle, quoi. Enfin, un point essentiel.
Et après, en termes de ce qu'obtient l'athlète en étant dans le team, est-ce que là, tu mettrais des recommandations? Bon, par exemple, en cyclisme, il y a un salaire minimum quand tu es en World Tour. Est-ce que ça, c'est des choses que tu pourrais mettre sur la table quand on définit un team, est-ce qu'il faut que le coureur il ait une dotation minimum ou des choses comme ça?
Alors,
Plutôt que de faire le team cochonou avec des copains qui se retrouveraient 4 fois dans l'année.
je pense qu'il faut surtout être clair dans ce qu'on annonce et dans ce qu'on vend aux coureurs et dans la com qu'on fait. C'est-à-dire que quand je vois certains teams que je ne citerai pas marquer recrutement pour devenir premier contrat pro, voilà, obtenez votre premier contrat pro et que le contrat pro c'est 2000 euros de matos dans l'année. C'est pas un contrat pro, un professionnel, c'est qu'il gagne sa vie avec ça. Donc, c'est de l'enfumage et ça ne me plaît pas. Donc, je pense que pour l'instant, le trail n'est pas prêt à ce qu'il y ait un cahier des charges avec écrit il faut temps pour être un team, etc. Parce qu'il n'y a pas encore assez d'investissement de toutes les marques de la même façon. Mais il faut que au moins ce soit clair. Il faut arrêter de prendre les gens et les athlètes pour des Scooby-Doo, quoi. Si je peux me permettre. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
Ah, OK.
Après,
OK.
pour faire une distinction de team pro qui, là, où tous les athlètes sont salariés ou ont une somme suffisante pour être pro, là, d'accord, pourquoi pas, mais c'est une distinction particulière. Mais pour être un team tout court, c'est compliqué pour l'instant de mettre une exigence minimum. Faut juste être clair, voilà, sur ce qu'ont les athlètes, quoi.
Ouais, il faut que il y ait un contrat défini, c'est ça?
Voilà, oui, voilà.
OK, ouais. Les deux signes, et puis il y a des droits et des devoirs.
Voilà, ça faisait partie d'un contrat écrit, ça faisait partie du cahier des charges qu'on a émis, je crois, avec Fred et les autres au début de l'année.
D'accord. Ils l'ont sorti cette discussion-là?
Je pense que c'était précisé, oui, dans le listing de tous les teams au début de l'année.
D'accord. Ouais, je m'en souviens pas trop. Ouais. Ok.
Ouais, il me semble que il y avait toute la liste des clauses à respecter.
Ok. Alors, question intéressante, Nicolas. Puisque, comme je disais en intro, bah, on voit un peu les marques, ce que c'est, ce qu'elles font, puisque en général on est acheteur. Les athlètes, on les côtoie, on les connaît, on les voit dans la presse, etc. Et au milieu de tout ça, il y a le team manager. Alors, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, le team manager? Il est là, il prend des commissions, sur les contrats de ses athlètes et il fume le cigare au bord de la piscine ou il a des activités à faire?
Ah, si seulement, si seulement.
Alors là, c'est le team manager du team Merrell, hein, puisque tous les teams n'ont pas les mêmes budgets, et j'imagine que certains avec un budget inférieur, bah, font peut-être moins, et certains avec un budget supérieur, bah, j'imagine, bah, pour revenir à Salomon, là, on peut peut-être exiger plus, mais alors au team Merrell, team manager, c'est quoi?
Alors. Effectivement, par rapport à certains teams de marques qui sont directement employés par la marque, il y a peut-être voilà, plus d'exigences, etc. Nous, vu que c'est une association, une collaboration avec la marque, mais je ne suis pas employé directement par la marque, j'ai un petit peu plus de liberté sur mon emploi du temps quotidien, on va dire. Et pas de compte à leur rendre sur ce que je fais chaque jour, quoi.
Ouais.
Donc, le quotidien, alors non, je fume pas le cigare au bord de la piscine d'ailleurs, pour répondre à ta petite blague. C'est essentiellement préparer des déplacements, préparer le calendrier, être à l'affût de chaque info qui tombe sur une course qui va sortir, une course décalée, les calendriers des grands circuits, calculer ce qui peut avoir de l'intérêt pour chaque coureur. Prévoir les déplacements, quand même, ça prend beaucoup de temps, surtout quand c'est des déplacements en groupe assez loin. Après, bon, moi, j'ai vu que j'ai la double casquette aussi d'entraîneur. Bah, il y a une partie de la journée où c'est plus préparer le programme d'entraînement, mais Pour rester sur ta question, ouais, c'est beaucoup de relations avec les courses aussi, pour demander des invitations, pour voilà, pour regarder pour les logements, des choses comme ça. Et beaucoup d'appels passés aux coureurs aussi, savoir comment ils vont, où ils en sont, niveau forme, ce qu'ils ont envie de faire, s'il y a des problèmes, pas de problème, voilà. C'est jongler entre, voilà, entre communication avec les coureurs, avec les courses et avec l'ordinateur pour tout, pour la logistique, quoi.
Ouais, donc en fait, toi, tu soulages les athlètes d'une certaine logistique en leur disant, donc je prends un exemple au hasard, bon les gars, vous participez au Lavaredo, machin il fait le 50 bornes, machine le 80 et bidule le 120, rendez-vous à tel endroit pour le départ, on y va avec, je sais pas, le camion là. Le lundi soir, on dort là-bas. Faut prendre ça, ça, ça et ça, les draps, machin, truc. Et le dimanche soir, on revient à telle heure et je vous ramène au point de dépose. Et les athlètes, finalement, ils ont qu'à suivre le plan, c'est ça?
Ouais, exactement. Ils reçoivent une convocation quelques jours avant, avec
Ouais.
toutes ces informations-là marquées, ce qu'ils doivent prendre, comme tu dis, l'heure de rendez-vous, l'hébergement, etc., quoi. Donc,
D'accord.
après, si, voilà, quand il y a des changements, et il faut qu'ils me le disent à temps, si par exemple il y en a un qui veut que sa femme vienne ou des choses comme ça, mais sinon ils reçoivent toujours, voilà, la convocation quelques jours avant avec tout détaillé, matériel, logement, heure de départ, heure d'arrivée. Lors des courses, ouais. Donc oui, et c'est un peu leur mâcher le
Et
travail, comme tu dis, oui.
ouais, bah finalement, tu leur offres du temps libre en plus. Et tu disais, tu discutes avec eux des courses qui peuvent être intéressantes à faire, c'est-à-dire que tes athlètes, peut-être, quand ils établissent leur calendrier, en fait, tu interviens en disant bah en fait, je sais pas si tu as vu, mais à tel moment de l'année, il y a une course qui peut bien te correspondre. Le déplacement est pas très loin, etc. Donc tu finalement c'est l'athlète ne vient pas vers toi en disant hey Nicolas, regarde, je vais faire ça, ça et ça. Toi, tu te permets de donner des infos aussi là-dessus.
Oui, voilà, alors je
En fait,
leur
tu fais
impose.
quoi? Une veille parce que là on voit, ouais, c'est vrai qu'il y a le calendrier des Golden, il y a le calendrier Skyrunning, donc par exemple Louison, il était pas mal dessus. Il y a le calendrier Bay UTMB, là il y avait plus Manon, Alex, c'est vrai que pour jongler avec tous les calendriers, il y a le calendrier l'an prochain Coupe de France là de trail.
Oui, aussi.
Ok, toi t'essayes de tout avoir en tête et de leur proposer des dates.
C'est ça. En gros, alors on leur impose rien, évidemment que c'est quand même leur volonté, ce qui leur fait envie, etc. Mais moi, voilà, en ayant une certaine connaissance de pas mal de courses, en y étant allé depuis longtemps, en connaissant aussi leurs points forts, leurs points faibles aux coureurs, et puisque voilà, on travaille sur plusieurs années, ben, je les essaye de les aiguiller sur, voilà, ce qui peut leur convenir, sur les périodes où c'est pas trop chargé ou c'est chargé, etc. Si là ils peuvent en caser. Si je pense qu'il faut une erreur de vouloir se lancer sur tel truc, etc., leur dire plutôt ça, on fera ça plus tard, etc. Oui, c'est vraiment du conseil et pour essayer de trouver le bon équilibre dans leur saison, quoi.
Est-ce que tu as un exemple sur cette année là qui te vient en tête où tu as discuté d'une course avec un coureur et finalement il a choisi de t'écouter?
Ouais, il y en a eu pas mal, il y en a eu pas mal, mais. Un exemple parlant, qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, ça c'était prévu. Bah, c'est vrai que là, tu vois, la finale, les deux finales s'enchaînaient entre les Golden et les Skyrunning.
Ouais.
Et à la base, Simon Guignard, donc, il devait faire que la finale des Golden.
Ouais.
Et donc lui, il était parti sur sa tête. Et vu que il était assez frais parce qu'il s'était blessé, enfin, il était tombé, il s'était cassé fêlé une côte et du coup, il a passé longtemps arrêté. Il était plutôt très frais en fin de saison. Donc, il y avait une semaine d'intervalle et deux finales étaient en Italie. Donc, ce que je lui ai dit, c'est bah, si tu le sens et si tu en as envie, pourquoi pas enchaîner les deux, quoi. Il était qualifié pour les deux. Et c'est vrai qu'il n'y avait même pas forcément pensé au début. Et rien que le fait de lui en parler, voilà, ça l'a motivé. Il s'est dit, allez, feu, on le fait.
Ouais,
Et
en plus, il a pas trop mal marché sur les deux.
voilà, et au final, il a mieux marché sur celle des Skyrunning que celle des Golden. Donc il a plutôt bien enchaîné les deux. Et parce qu'il y avait cette fraîcheur de la saison auquel il fallait, à laquelle il fallait penser.
Ok.
S'il avait fait toutes les courses prévues pendant l'été, j'aurais pas proposé ça, par exemple.
D'accord. Ah ouais, ok, ouais, c'est intéressant. En milieu de saison, comme ça, tu peux réorienter en... Ok. Bah merci, bon exemple, ouais.
Voilà, donc c'était le plus
Combien
parlant.
d'athlètes en 2023 au sein du team Merrell, du coup?
On en avait 7 cette année, du coup.
7? Ok, ouais, c'est un chiffre qui te satisfait ou t'en voulais plus, ou alors tu trouvais que ça faisait beaucoup et peut-être que t'en voudrais peut-être moins?
Alors non, moins non. Après plus par rapport à notre budget, on pourrait pas beaucoup plus. Du coup, je pense que ouais, 8, ça serait bien. 7-8, c'est bien. Mais moins non, parce que depuis le début, on a une espèce de philosophie qui est d'être présent sur tous les circuits, un peu sur toutes les distances, tous les formats.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et du coup, il faut des coureurs un peu sur chaque type de course. Donc, si on en a deux sur très court, deux sur skyrunning, deux sur ultra, etc., ça va vite, quoi. Et moi, je réfléchis aussi que quand on a des coureurs en récup, des coureurs blessés, si on n'a que quatre coureurs, eh ben, on se retrouve avec plus personne pendant 3 mois, ça pose problème, quoi. C'est-à-dire on nous voit plus, on n'existe plus pendant des mois si on n'a pas assez de coureurs. D'où
Ouais,
l'intérêt d'avoir.
c'est un joli point de vue. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu défends avec la marque pour dimensionner le budget, par exemple?
Oui, carrément, carrément. C'est des discussions qu'on a eues avec Merrell et avec les partenaires plusieurs fois. Et ils le comprennent très bien, ça, parce qu'eux aussi, leur but, c'est d'être visibles.
Tiens, Nico, justement, j'ai une anecdote. C'est tout frais, là. Tu vois, je discutais hier avec quelqu'un qui travaille pour Altra.
Ouais.
Et en fait, quelques personnes de la communication de Altra, mais ce n'est pas des Français, ils ont demandé à un mec qui bosse pour Altra en France, ils lui ont dit, mais tu crois qu'on en a besoin des athlètes pour la communication?
Ah
Donc
oui, carrément.
peut-être on sera supprimé l'an prochain, je ne sais pas.
Ah oui. Ah oui, c'est grave à ce point-là qu'ils ne se rendent pas compte de...
À leur décharge, c'est une équipe rajeunie, rénovée, qui n'a pas forcément une bonne expérience du monde du trail. Mais bon.
Ouais, mais quand même.
Ok, ouais. Alors, justement, bah, on parle du team Merrell, on parle du team Merrell, mais est-ce que quand tu présentes le projet aux coureurs, donc bah, évidemment, j'imagine qu'il faut courir avec les chaussures Merrell, est-ce que tu leur proposes d'autres sponsors que ce sponsor principal qui amène, bah, j'imagine, une dotation matérielle, puis un petit peu de financier aussi. Est-ce que tu proposes d'autres sponsors?
Oui, alors on essaie d'avoir toujours un partenaire nutrition aussi. Là, on a aussi Sidas depuis 2 3 ans pour les chaussettes et tout ce qui est voilà soin du pied etc. Donc ça on travaille bien avec eux, donc on va continuer avec eux, ça c'est bien, c'est quelque chose, voilà, c'est pareil, c'est une relation à long terme. Pour la nutrition, bah ça change un peu plus, mais on essaye de trouver des marques qui conviennent aux athlètes quand même. J'essaye d'avoir beaucoup de discussions avec eux là-dessus. C'est pas simple de trouver quelque chose qui convient à tout le monde. Et après, non, il n'y a plus grand-chose. Plus le partenariat évolue avec Merrell, moins il y a d'à côté aussi, parce qu'ils veulent une certaine exclusivité, ce qui est logique aussi quand ils investissent plus. Donc voilà, avant, on a eu des partenariats sac, on a eu des partenariats pour
Ouais.
d'autres produits, mais là, maintenant, il n'y a plus que nutrition et chaussettes, quoi.
Ouais. Et toi, est-ce
Et
que
bâtons,
tu...
pardon, et bâtons.
Ah oui, vous avez qui en bâton?
Cette année, on avait la cale, mais l'année prochaine, ça va changer du coup.
Ok. Ouais, tu vois, j'avais un... Donc cette année, au Team Altra, ils voulaient nous refiler des sacs Instinct. Puis, bah, comme d'hab, à chaque fois que tu sors un peu du cadre du partenariat initial. Donc, tu as des coureurs qui trouvaient ça super et puis d'autres qui trouvaient ça moins bien. Parce que c'est difficile d'avoir un même sac pour tout le monde.
Ouais, c'est
Et
compliqué.
est-ce que, du coup, avec cette augmentation de budget de la part de Merrell et du coup, le fait que tu n'aies plus besoin forcément de sponsors annexes, est-ce que finalement ça ne te facilite pas la tâche? Parce que du coup, les coureurs s'équipent un petit peu comme ils veulent. Donc j'imagine le sac, peut-être, comme tu le disais, peut-être la nutrition, bah, chacun peut peut-être avoir sa marque. Est-ce que toi, ça, c'est pas plus simple?
Oui et non, oui et non. La nutrition, on essaye quand même de garder un partenaire pour tout le team, bah avec les difficultés que ça propose. Et pour les sacs, le truc, c'est que c'est pas non plus, ça veut pas dire qu'ils peuvent porter les sacs qu'ils veulent, ça veut dire que c'est Merrell qui va nous en faire faire. Et la problématique, je la connais, elle va être la même que pour vous avec Instinct ou pour d'autres, c'est qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont moins aimer. Donc là, tout est une histoire de compromis avec les athlètes. Tu le portes sur cette course, mais voilà, à l'entraînement, tu ne mets pas, tu fais pas de photos, des choses comme ça. Voilà, c'est une histoire de discussion et voir avec la marque aussi pour faire des sacs les plus adaptés possibles aux besoins des coureurs. C'est une histoire de compromis.
Ok.
Mais ça règle pas forcément. Voilà, pour te répondre à ta question, non, ça règle pas forcément, ça ne facilite pas forcément la vie.
Ah ouais. Parce qu'après, tu dois peut-être faire attention. S'il y en a un qui a un sac bleu, l'autre qui a un sac vert, ça fait pas des jolies photos, trucs comme ça?
Ouais, voilà.
Ok.
Donc, voilà.
Est-ce que, donc on parlait un peu de budget, etc., amené par la marque de chaussures Merrell. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient fait des publicités sur les bus à Chamonix, là, c'était joli. Est-ce que tu as des athlètes qui sont professionnels, c'est-à-dire qui ne travaillent pas à côté, parce que tu les rémunères énormément? Ou si ce n'est pas le cas, est-ce que tu en as qui touchent une enveloppe plus ou moins conséquente, mais vraiment, voilà, c'est de l'argent qui tombe sur leur compte et ils en font, ce qu'ils veulent, quoi.
Alors cette année, non, il n'y en avait aucun. L'année prochaine, il y en aura un, mais qui sera à moitié intégré au Team Europe. Donc
Ah, qu'est-ce
c'est.
que c'est que ça, le Team Europe, là? J'apprends quelque chose.
En fait, Merrell, jusque-là, ils avaient donc. C'était pas trop structuré au niveau pays. Il y avait un team Espagne et donc nous, plus ou moins en France. Donc l'année
Ouais.
prochaine, ça sera beaucoup plus. Ça sera vraiment Team Merrell France. Mais ils ont un Team Europe avec des athlètes internationaux qui vont renouveler un petit peu aussi parce que certains sont un peu vieillissants. Et du coup, dans cela, ils vont intégrer un des nôtres. Et qui lui sera donc professionnel, mais on continuera de s'en occuper parce que bah, il est français, il vit en France et voilà, et donc il continuera à être dans l'équipe, quoi. Mais il
D'accord.
sera
Ah ouais.
professionnel et payé par l'Europe.
Ah ouais, donc en fait, lui, il va passer de je suis au Team Merrell, je bénéficie de remboursement de déplacement ou autre chose comme ça, mais bon, il n'avait pas, par exemple, une certaine somme à l'année, et d'un coup, boum, il passe à une somme professionnelle, c'est ça?
C'est ça.
Ah ouais, ça fait un sacré bond.
Et ouais, bah c'est suite à des résultats, voilà, donc que tu connais.
Ah, bien sûr, il y a quelques coureurs chez toi qui le méritent, c'est vrai.
Voilà, et après,
Et
on a un deuxième coureur niveau France qui, lui, aura, comme tu dis, une bonne somme, pas de la être totalement professionnel, mais qui aura une somme très correcte, au moins pour être à mi-temps ou un peu moins.
Bah tiens, c'est un peu une question que j'avais après, mais on peut la mixer. Quand bon, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la marque, mais c'est toi qui manages tout ça. Quand tu leur donnes une somme d'argent, qu'est-ce que tu attends de leur part? Est-ce que c'est simplement en disant, bah, t'as fait une bonne saison, tiens, l'an prochain, je te donne ça et fais ta vie? Ou est-ce que tu lui dis, bah, attention, du coup, je te donne ça, mais en échange, je veux une sorte d'engagement, bon, moral, hein, bien sûr, pas, pour qui, peut-être, qui bosse pas forcément à temps complet ou qu'il soit plus sérieux sur certains points. Est-ce que tu en profites pour lui donner un peu des conseils d'amélioration dans le but de toujours faire mieux, puis peut-être pour lui d'avoir une démarche professionnelle à un moment donné.
Alors, évidemment que plus il y a d'investissement de notre part, comme de la marque, comme de notre marque, etc., plus on va avoir d'exigences. C'est la même chose que ce qu'on disait pour les sacs tout à l'heure, pour la couleur, etc. Si Mirel nous donne plus, ils vont être plus exigeants sur le, sur notre rendu, sur notre communication, etc. Ben, c'est pareil pour les athlètes. Moi, si je fais signer un gros contrat à un athlète, il faut que sa communication soit irréprochable, que ce soit sur les réseaux, que ce soit verbal, hein, quand il parle de l'équipe, quand il parle des produits avec des gens, sur les courses, dans les interviews, des choses comme ça. Il faut qu'il renvoie une bonne image, en fait. Après, sur le côté motivation, engagement personnel dans dans la performance, etc. J'essaye de ne pas leur mettre de pression, donc, parce que c'est déjà un gros changement pour d'avoir une somme d'argent plus ou moins grosse, surtout quand on passe de zéro à ça. Du coup, ça leur met forcément une pression supplémentaire, donc je vais essayer de ne pas en rajouter là-dessus, mais au contraire de les accompagner, mais ils savent que du coup, ils ont plus d'exigences de résultats forcément, mais aussi de comportement, on va dire. Donc de sérieux dans leur préparation, dans leur mode de vie, dans leur alimentation tous les jours. Après, travailler ou pas travailler, moi je vais rien imposer parce que certains ont besoin de garder quelques heures pour justement pas se déconnecter de la vie normale et rester un peu garder une espèce de stabilité, alors que d'autres non, n'en ont pas besoin. C'est ça, c'est du C'est à force de discussion avec les athlètes de savoir comment ils fonctionnent, quoi. C'est du cas par cas.
Ouais, ok, intéressant. Et parce que tu vois, moi, ma réflexion, c'était de me dire quand j'en vois certains faire, je me dis, bah, c'est cool, il a obtenu des droits, mais en échange, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de devoirs, quoi.
Ouais. Ça, c'est le problème, oui.
Je pense par exemple à la Pro Trail Runner Association qui fait que de se plaindre, mais qui est quand même bien contente d'avoir des jolis prix. Ok, Nico, pour compléter un peu cette question, on avait juste oublié de dire, du coup, les athlètes de ton team, bah, cette année, tu n'avais personne qui touchait de l'argent. Eux, bon, bah, ils portaient les couleurs de Merrell, mais c'est pas juste parce qu'ils t'aiment bien, ils avaient quelque chose en échange. Alors, c'était quoi? C'était de la dotation matérielle? Ils payaient pas leurs déplacements? Qu'est-ce que c'était en gros? T'es pas obligé d'entrer dans les détails, hein.
Ouais, bah, évidemment, tous les déplacements étaient pris en charge. Et
Ah, c'est beaucoup ça
accompagné.
déjà.
Oui, voilà, c'est ça, parce que
C'est pas rien, hein.
si on fait le calcul, si tu as quelqu'un qui aurait, je sais pas moi, 3 000 euros dans l'année, mais qui doit payer tous ses déplacements, au final, ça revient quasiment au même, quoi.
Ah oui, exactement. Ouais.
Donc ça, plus des primes de résultats, bien sûr.
Ah, il y avait quand même des primes de résultats, ouais.
Oui, quand même.
Ah ouais.
Donc ça, et après, ouais, donc vous avez matériel, tout ce qui était donc chaussures, tenues, nutrition, voilà. Et donc bah, après, on a organisé un stage dans l'année, on n'en a fait qu'un cette année au lieu de deux.
Ah, c'est
Et
déjà pas mal.
voilà, et donc l'encadrement sur toutes les courses, ils ont vraiment été accompagnés sur toutes les courses où ils étaient cette année, les athlètes. Hormis les petites courses de village de préparation, bien sûr, mais... Toutes les courses importantes où ils étaient, il y avait soit moi, soit quelqu'un d'autre qui nous aide dans le staff, ou voilà.
Ok. Ok, donc c'est assez, c'est pas mal. Et puis toi, ouais, ça te prend du temps du coup quand il faut se déplacer avec eux.
Oui.
Turnover hiver, turnover automnal même, parce que je pense qu'au 1er janvier, quasiment tout est bouclé. T'avais 7 coureurs cette année. Bon, c'est pas la peine de nous dire exactement les chiffres ou les noms, mais est-ce que t'en vires? Est-ce que t'en recrutes? Et pourquoi? Alors, je pense que c'est toujours difficile de séparer de quelqu'un parce qu'il y a quand même beaucoup d'affect, surtout toi qui te déplaces sur les courses avec eux. Mais voilà, dis-nous tout, le petit turnover de Merel, comment ça se passe?
Alors, oui, ça c'est vraiment une question très compliquée parce que Ben voilà, quand on passe plusieurs saisons avec des athlètes, qu'on les voit sur plein de week-ends, sur des semaines, etc., et que ben voilà, il y a forcément beaucoup d'affect. Donc c'est très dur. Et ça, c'est vraiment je trouve que c'est une des parties les plus dures de mon boulot, d'appeler un coureur ou lui dire en face, lui dire bon, ben, l'année prochaine, t'es plus là, là c'est compliqué. Quand ça se passe, comme certaines fois, d'un commun accord parce que l'athlète est conscient d'avoir pas était à la hauteur ou pour d'autres raisons personnelles. L'année dernière, on en avait un où sa femme venait d'accoucher. Du coup, il s'est dit que cette année-là, il ne pouvait pas s'investir dans le trail et du coup, il a préféré arrêter. J'ai envie de dire, ça me facilite la tâche. Donc là, cette année, on n'en aura qu'un coureur qui va arrêter. C'est un commun accord aussi, donc ça m'a un petit peu facilité la tâche, mais c'est toujours très compliqué, voilà, parce qu'il n'y a que des gens que j'apprécie dans l'équipe, hein, il y a vraiment un côté vraiment humain aussi. Donc ça fait jamais plaisir. Après, voilà, c'est sûr qu'il a fait une saison enfin, les deux dernières saisons étaient beaucoup plus compliquées avec des blessures, mais ça a été, voilà, c'est un commun accord qui fait que, bon, ça passe un peu mieux, même si c'est toujours compliqué. Et bon, y a des fois où ça s'est moins bien passé, mais en 6 ans, il n'y a qu'une seule fois où ça s'est pas bien passé, quoi, vraiment, où ça a été vraiment mal vécu, mal perçu. Mais bon, bref, je ne rentrerai pas dans ces détails-là.
Ouais, bah ça arrive, hein, je pense, c'est toujours.
Oui, voilà, ça fait partie du jeu aussi. Et donc après, pour parler du nouveau, enfin de la nouvelle saison. On va recruter deux athlètes du coup, que donc je ne dévoilerai pas parce qu'ils sont encore en contrat avec d'autres marques jusqu'au 31 décembre.
Ok, ah c'est jusqu'au 31 décembre, ouais.
Ouais. Mais du coup, voilà, donc l'année prochaine, on sera à. Enfin, en théorie, on sera à 8, 7 si on compte qu'il y en a un qui est dans le Team Europe, mais il sera avec nous toute l'année. Donc oui, on aura
Oui,
deux
oui,
athlètes,
oui,
quoi, voilà.
oui. Ouais, il sera habillé pareil et tout.
Voilà. Mais c'est la différence un peu avec jusqu'à présent, en fait, parce que c'est la première année qu'on recrute deux vrais athlètes vraiment aguerris dans des autres teams. Parce que jusqu'à présent, on préférait former les coureurs sur 3-4 ans aussi,
Ouais.
enfin, voilà, sur le long terme. Et là, en fait, on veut continuer sur notre lancée de cette année et même augmenter, où on a vraiment eu des résultats, enfin les meilleurs résultats qu'on a jamais eu. Et donc, c'est un recrutement plus dans l'immédiat, quoi, pour marcher tout de suite, quoi.
Ok, ouais. Et justement, bah là, tu devances un peu ma question d'après. Tu vas recruter des gens qui sont déjà en place, qu'on connaît, qui sont reconnus pour les résultats. Au cours de l'année, bah, j'imagine, c'est un peu, tiens, tu l'as pas dit quand tu parlais de ton rôle de team manager, mais j'imagine que tu as un œil un peu sur un espoir qui va faire un top 5 sur une course, tiens, c'est qui, etc. Comment tu fais pour, enfin, est-ce que tu as des petits checkpoints pour repérer un jeune prometteur ou un cadre un peu déjà en place comme les deux personnes que vous allez, alors je les connais pas, hein, que vous allez recruter?
Alors,
Ou
la
à l'inverse,
question.
est-ce que tu reçois des demandes des mecs qui te disent, ah, j'ai fait tel résultat, est-ce que je peux venir dans le team?
Alors, effectivement, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, tu fais bien de me le dire. Dans les rôles du team manager, c'est vrai que toute l'année, éplucher les résultats ou sur les courses où je suis, regarder un peu les jeunes, etc., ça fait totalement partie du job. D'autant plus que. On en parlait au début, le Team Provence Endurance, donc la structure plus locale que j'avais créée, existe toujours et maintenant elle sert d'équipe de formation, en gros d'équipe espoir et d'équipe un peu réserve pour le Team Elite et régulièrement on en fait monter aussi là-dedans après les avoir formés. Bon, donc oui, il y a ce regard tout le temps des résultats, d'aller parler un petit peu aussi aux gens qu'on connaît pas qui font un bon résultat. De suivre. Je suis aussi évidemment sur l'e-trail, sur l'UTMB, ceux qui font des bonnes cotes en étant jeunes et qu'on ne connaît pas trop. On dit, tiens, ça c'est un bon rapport âge-cote, par exemple. Ça c'est ma petite astuce. Après, bon, les cadres, on les connaît, etc. C'est après, dans les deux cas qu'on prend, ils ont quand même pas le même âge. Il y a un des deux athlètes qui est quand même plus jeune que l'autre. Disons que pour le recrutement, je me base donc voilà sur plein de choses, sur l'âge évidemment, et donc la marge de progression que j'estime que l'athlète a encore. Parce que ce soit en changeant de distance ou en s'entraînant différemment ou des choses comme ça, parce qu'on va quand même pas recruter un athlète qui a sa carrière derrière lui et qui peut plus que se maintenir un an ou deux et avant de décliner. Mais un athlète, ça peut être un athlète qui a, je sais pas moi, qui a la trentaine, mais qui veut passer sur plus long et qui veut se tenter, qui voilà, qui peut performer plus sur plus long, par exemple, alors qu'il était que sur court. C'est un exemple. Bon, après, voilà, donc cette année, c'est un mauvais exemple, contrairement à toutes les autres années où on a toujours fonctionné comme ça, voilà, de donner leur chance à des jeunes, à les former petit à petit, à les faire monter donc dans le team Miral après. Là, cette année, on a pris des athlètes qu'on connaissait. Les deux athlètes, on les connaissait. D'ailleurs, si ça te mettra peut-être sur une piste, j'en dirai pas plus. Un des deux athlètes recrutés est déjà passé par notre équipe par le passé.
Ah, il
Il y a quelques...
revient.
Voilà, c'est un retour.
Ah, c'est beau ça. C'est aussi, ça veut dire que ça lui a plu quelque part.
Oui, voilà, ça fait plaisir. Et surtout, tu sais, il y a quelques années, il y avait eu une énorme fuite, entre guillemets, parce qu'on n'avait pas assez de budget. Donc, tous les athlètes qu'on formait partaient au bout de 2 ans, 3 ans, dans des gros teams.
Ouais, c'est vrai ça.
C'était assez dur à vivre d'ailleurs, mais oui, on a eu des athlètes. Dans tous les gros teams, il y a eu au moins un athlète passé par nous, quoi. Et donc là, qu'il y ait machine inverse, que ça fasse le retour, ça fait plaisir, quoi.
Ouais, c'est bien, ça montre que vous êtes vraiment très très bien développé. Ok, ouais. Et est-ce que tu reçois du coup des demandes bah, auxquelles tu réponds pas forcément positivement d'autres coureurs?
Ouais, alors oui. Bah, en ce moment, là, c'est vraiment la période de... En ce moment, c'est tous les jours, quoi.
Ah ouais?
Ouais. Et
Putain, c'est fou
c'est vrai
ça.
que c'est peut-être
Tous les
tous les...
jours, t'as des demandes?
Ouais, par mail, par Messenger, enfin par donc Facebook, par Instagram.
Par TikTok?
Non, ça pas encore.
Ok, je me rendais pas compte, c'est énorme.
Mais là, peut-être cette année, voilà, plus que les autres années. Cette année, un peu moins. Mais là, surtout sur cette période-là, depuis un gros mois à peu près, cette période un peu de transfert, entre guillemets. Là, c'est ouais, 2, 3 demandes par jour, quoi.
Ouais. Bon, hey, parce qu'on est quand même un peu moqueur. T'as des demandes de certains qui sont nuls. Non, mais tu dis pas
Alors,
les noms. Hein.
je ne dirai aucun nom, mais
Mais
il
est-ce
y
que
en
des
a
fois, t'as des
effectivement.
gens qui te demandent, tu te dis putain, mais qu'est-ce qu'il me veut lui? Tu vois, par exemple, moi, j'organise le niveau Les Revards. Et des fois, t'as des gens, ils me demandent un tossard gratuit. Oh, le gars, il a une cote à 720. Je me dis putain, mais en fait, il y en a 50 des comme ça au départ de ma course. Je vais pas lui filer un tossard gratuit.
Ah oui, bien sûr. Non, mais il y a des fois, il y a pire que ça, quoi. Parce que, à la limite. Enfin voilà, des gens qui ont 720 mais ils ont 18 ans, je vais dire, bon, ben, peut-être que tu as ta place dans l'équipe Espoir, Junior Espoir et tout, on verra. Mais il y a des fois, il y a bien pire, bien pire.
Ah ok, ouais, ah,
C'est
c'est
toi qui
marrant.
l'autorises parce que c'est la minute moquerie, hein. Mais il y a des fois des gens qui ont une cote à 550 ou à 600, qui ont 35 ans et qui viennent me dire, oui, j'aimerais bien rentrer dans un team.
Ah ben ça, c'est un peu la moyenne des patriotes, mais ils demandent pas à rentrer dans des teams.
Voilà. Non, mais c'est très très bien de courir, etc. et d'être motivé à faire plein de courses. Ça, c'est pas le problème, au contraire. Moi-même, j'avance plus beaucoup en ce moment.
Ouais,
Mais...
550, souvent sur les courses, t'es bah, t'es déjà bien dans la première moitié, il me semble. T'es plutôt dans le premier tiers, je dirais. T'es un peu à la frontière du premier tiers.
Ouais, voilà. Mais voilà, il faut juste être conscient de son niveau, quoi. Donc, il y en a des fois qui sont un peu détachés de la réalité, quoi.
Ok, ouais. Oh putain, j'en étais sûr.
Ouais.
Ok, alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure, à demi-mot, je t'ai retenu pour le garder pour maintenant. Est-ce que dans votre team, donc toi, tu interviens non pas comme team manager, mais aussi comme entraîneur, Déjà, es-tu l'entraîneur de tout le monde ou pas? Et puis sinon, est-ce que tu as d'autres professionnels? Je pense à kiné, ostéo, nutritionniste, préparateur physique.
Moi, je suis pas l'entraîneur de tout le team, de la moitié à peu près.
Ah, quand même!
Oui. Après, il y en a qui arrivent avec leur. Quand ils sont recrutés comme ça, ils arrivent avec déjà leur entraîneur. Donc, sauf s'ils ont besoin d'un changement, sinon, je leur impose rien. Ils peuvent rester avec ce qui marchait déjà.
Ouais, je pense que c'est de plus en plus courant ça, parce que de plus en plus de monde a déjà son entraîneur.
Oui, voilà, donc je vois aucun inconvénient. Si ça marche pour eux, bah, tant mieux, hein, ça nous arrange. Après, oui, on a un autre entraîneur qui encadre des fois un petit peu avec nous aussi et qui s'occupe de deux athlètes et qui aide des fois aussi sur les déplacements. On a un ostéo aussi qui est très investi et qui vient sur les stages et sur plein de déplacements avec nous. Après, voilà, pour l'année prochaine, c'est ça qu'on va essayer. Alors, on n'a pas de diététicien nutritionniste. C'est vrai qu'on a des fois eu la demande. Alors, je n'avais pas trouvé trop d'accords ou de choses comme ça avec des gens dans le sport qui pourraient intervenir. Kiné, oui, de temps en temps, mais après, on a un coureur qui est kiné aussi, donc ça aide aussi. Et après, j'ai eu une demande aussi d'un des deux athlètes qu'on recrute là, enfin une, mais de faire intervenir un préparateur mental. Donc je suis en train de voir qui d'autre pourrait en avoir besoin et peut-être il y a
Ah
ça
oui.
qui va intervenir aussi.
Oui, finalement, ma question, elle était peut-être un peu trop conséquente. Je pense que, évidemment, on n'est pas dans une équipe cycliste professionnelle. Par exemple, la Groupama, on est sur plusieurs millions d'euros de budget. Je pense que vous n'avez pas ça à Merrell.
Ah non.
Mais du coup, oui, tu peux pas avoir le nutritionniste du team Merrell qui travaille qu'avec vous. Mais oui, faire appel. Épisodiquement. Du coup, donc ce que tu me dis, c'est qu'éventuellement, en 2024, vous allez avoir un préparateur mental qui pourrait faire des interventions avec les athlètes.
Voilà, c'est ça, quelques interventions,
Épisodique.
voilà, en visio avec certains athlètes et après des fois sur des stages, des choses comme ça, mais c'est tout. Effectivement, on ne peut pas payer tous ces professionnels à temps plein toute l'année, quoi. Aucun d'ailleurs.
Ouais. Par contre, tu peux les payer à la prestation. Si ça rentre dans le cadre du budget et que c'est un choix intelligent de la part des coureurs.
Voilà, exactement.
Ok. Par exemple, si demain il y a un coureur qui te dit, bah écoute, moi j'ai besoin de 1000 balles annuelles pour mon nutritionniste sur toute l'année et les prises de sang qu'il me fait faire, tu me les délivres sur facture du nutritionniste. Ça c'est quelque chose que tu pourrais envisager, par exemple.
Ouais, il faut qu'ils me le disent là quand on calcule les budgets.
Ah oui, bien sûr, ouais, bah ouais, forcément, s'il
Voilà,
te le dit en
maintenant,
mars.
c'est ça. S'il me le dit en mars, je dirais bah t'es gentil, mais non, du coup.
Ouais, bah ouais, bien sûr. Ouais,
Mais
c'est...
oui, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable, oui.
Ok, ouais. Allez, on arrive proche de la fin avec les questions un peu rêves et fantasmes. En 2024, ton team, il double le budget par rapport à ce que tu as prévu. Tu vois, finalement, 1er décembre, tu reçois un coup de fil de Merrell. Ouais, Nico, on t'avait prévu telle somme. Bah écoute, on fait x2 là. Qu'est-ce que toi tu fais?
Ah, très bonne question, très bonne question.
C'est mieux que la question est-ce que tu as un budget illimité? Parce que comme ça, tu peux pas me dire ouais, je recrute Kylian.
Ouais, non, c'est vrai. Bah, je donnerai déjà un peu plus à tous les athlètes.
D'accord. Ah ouais, ok.
Parce
Tu
que.
redistribues les richesses dans un premier temps.
Exactement, exactement. Tu
Ah,
as vu
c'est bien
cette.
ça, c'est un bel état d'esprit. Hein.
Voilà. Non, mais parce que je pense que vu leur investissement à tous, bah, ils méritent plus donc que ce qu'on peut leur donner pour l'instant. Donc je leur donne pas plus parce qu'on n'a pas plus pour l'instant, mais ils mériteraient. Après, ben peut-être que je prendrai un athlète de plus. Et je change le camion qui commence à être un peu
Ah
usagé.
oui, c'est toujours le même.
Oui, il a 210 000 bornes.
Ah oui, je vois lequel c'est. Il est très
Voilà.
beau.
Il est très beau, mais
C'est
il
vrai que ça
commence à.
mériterait un nouveau véhicule.
Voilà. Donc, à bon entendeur, salut. Si on double le budget, voilà ce qui sera fait.
Ok. Et puis dernière petite question, question un peu plus sérieuse cette fois-ci. Donc là, bon, j'imagine 2023 est fini. T'as des coureurs à la Saint-Élion, Nico? T'en as quoi encore des gros objectifs?
Bah, on n'aura que Rémi du coup sur la Saint-Élion.
Eh oui, ok.
Ouais.
Bon, disons que
Sinon.
2023 est fini. Est-ce que tu as fait un bilan avec la marque? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'ils ont exigé de toi du coup dans ce bilan finalement? Ou est-ce qu'ils s'en foutent?
Alors, que ce soit avec Merrell ou avec les autres partenaires annexes. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'essaye de faire des bilans très réguliers après chaque course et objectif déjà. Je leur envoie que ce soit des photos, mais aussi un résumé de la course, mais aussi de l'état d'esprit, de la suite aussi, de ce qui va advenir. Donc, ils découvrent rien. Alors là, effectivement, on va faire des bilans un petit peu, on a commencé, mais ils découvrent rien parce que je les tiens au courant toute l'année. Avec Mirel, avec Sidas, voilà.
Ouais, ils se disent pas. Ah bon? Simon Guignard a fait quatrième des France en mars?
Cinquième, cinquième.
Ok. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il a été doublé par Arnaud Bonnin, et t'as raison.
Au sprint, ouais. Mais donc, non, ils découvrent rien. Après, oui, on va faire un bilan quand même sur ce qu'on peut toujours améliorer, bien sûr, niveau communication, au niveau de la gestion du calendrier. Ce qu'ils attendent aussi, parce que forcément, voilà, vu qu'il y a plus d'investissements, il y a plus d'attentes,
Ouais.
mais globalement, le bilan, voilà, il prend pas longtemps à faire parce on fait des points réguliers.
Ok. Et eh ben, écoute, ouais, j'ai plus de questions. On a fait un joli tour d'horizon. Bah, Nicolas, je vais te remercier. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour 2024?
Une saison aussi belle que celle de cette année.
Ah, même un peu mieux, un peu mieux.
Allez, même un peu mieux.
Avec tes nouveaux athlètes. Bah écoute, j'ai hâte de découvrir tout ça. As-tu prévu une annonce? Et si oui, vers quelle date?
Du nouvel effectif?
Toi, je sais que tu fais une belle communication. Souvent, tu mets une photo avec les maillots et tout.
Ben là, du fait qu'ils sont encore en contrat, ça sera début mi-janvier, sûrement avec le stage de début d'année mi-janvier, ça sera.
Stage de début d'année, mi-janvier. Ok,
Voilà.
super. Bah, tu fais les choses bien. Merci de ton temps, Nicolas. Et puis bon, bah, très belle année à toi. J'espère te croiser, mais je n'en doute pas.
Mais oui, j'espère qu'on se
Salut.
reverra souvent. Merci, à bientôt.